VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce mercredi 27 mai 2015. À la une ce soir.
Une nouvelle journée d'affrontements mortels au Burundi où l'opposition réclame le report des élections.
Au Rwanda, une pétition demande au président Paul Kagame de briguer un nouveau mandat en 2017, 23 ans après son accession au pouvoir.
La crise au Yémen, de nouvelles frappes de la coalition font 36 morts dans le camp des rebelles houthis soutenus par l'Iran.
L'armée irakienne aux portes de Ramadi met la marche vers la reconquête de la capitale. D'Al-Anbar s'accompagne d'un lourd bilan. Au moins 17 soldats sont morts aujourd'hui dans des attentats attribués aux djihadistes.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Une nouvelle journée d'affrontements mortels au Burundi. Et ce mercredi, la pression de la rue ne faiblit pas, tout comme l'intransigeance du pouvoir. L'opposition demande le report des élections, nous dit Nicolas Pinault.
Ce mercredi, environ 200 manifestants ont marché dans la ville de Matana, dans la province de Bururi. La police est intervenue et a tiré. 3 manifestants ont été blessés. L'un d'eux est mort peu après en raison de coups reçus à la tête. Plusieurs personnes ont également été arrêtées par la police lors de cette manifestation. Dans les rues de Bujumbura, la police déployée en masse est parvenue pour la première fois à empêcher quasiment toute manifestation. Dans les quartiers de Musaga, Nyakabiga, Kanyosha et ailleurs, les policiers ont pris position avant l'aube pour prévenir tout rassemblement. Intervenant immédiatement à coups de gaz lacrymogène et tirs de sommation pour disperser tout groupe suspect. À une semaine des élections législatives et municipales au Burundi, l'opposition juge impossible la tenue de ces scrutins en raison du désordre et de l'insécurité dans le pays, appelant la communauté internationale à ne pas cautionner ce hold-up électoral annoncé selon elle. Les législatives et les municipales avaient déjà été reportées de 10 jours sous la pression internationale. Suivront en principe une présidentielle le 26 juin et des sénatoriales le 17 juillet. Les dirigeants des pays de la communauté d'Afrique de l'Est se réuniront dimanche en Tanzanie à Dar es Salaam pour tenter de trouver une position commune sur cette crise burundaise.
Et pendant ce temps, au Rwanda, environ 2 millions de Rwandais demandent une réforme constitutionnelle pour permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017. Leur pétition sera examinée pendant l'été par le Parlement, indiquent les autorités citées par l'AFP. Monsieur Kagame a tout pouvoir depuis que sa rébellion du Front patriotique rwandais a mis fin au génocide de 1994.
Et en République centrafricaine aussi, on prépare des élections. Le vote récemment reporté doit impérativement se tenir cette année, estime le ministère français des Affaires étrangères, alors que la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, est en visite à Paris. Et citée par l'AFP, elle a aussi affirmé sa volonté de ne pas indéfiniment aller de report en report et d'organiser d'ici la fin 2015 ces élections présidentielles et législatives initialement prévues en août.
Législative éthiopienne, des résultats partiels ont été publiés par la commission électorale. Sans surprise, la coalition au pouvoir a remporté une écrasante victoire aux élections du dimanche. Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens s'est déjà emparé de 442 sièges sur un total de 547. Le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Dessalegn, qui avait succédé à Meles Zenawi à sa mort en 2012, devrait donc être reconduit.
À Madagascar, les députés ont voté hier la destitution du président Héry Rajao Narimampiane. Ce dernier conteste le vote. Et le dernier mot reviendra à la haute cour malgache. Le point avec Idriss Fall.
Héry Rajao Narimampiane, 56 ans, se présentait en homme neuf lorsqu'il est arrivé au pouvoir après les élections de décembre 2013. Il avait mis 2 mois et demi pour trouver un premier ministre, limogé au bout de 8 mois. Son propre parti est resté un groupuscule ne disposant d'aucun député à l'Assemblée nationale. Ses détracteurs lui reprochent ses tâtonnements et son inefficacité. 121 députés ont voté hier sa destitution, l'accusant d'incompétence et d'avoir violé à plusieurs reprises la Constitution. Le président malgache conteste la régularité du vote, assurant qu'il était toujours là et que le pays a besoin de stabilité après toutes ces années de crise. Les regards sont maintenant tournés vers la haute cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur la pertinence de la destitution votée par des députés, mais aussi sur le respect de la procédure.
Mobilisation ce mercredi matin des organisations des médias à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elles ont tenu un sit-in devant le CSC, le Conseil supérieur de la communication, pour exiger la levée immédiate de la suspension des émissions interactives sur les médias audiovisuels. Sans avoir eu gain de cause, elles ont décidé de la reprise de ces émissions dès demain, sans tenir compte de leur suspension. Abdoulaye Diallo est le gestionnaire du centre de presse Norbert Zongo.
On a décidé ce matin de faire un sit-in pour se faire entendre, pour demander la levée de la mesure, la levée immédiate sans condition de la mesure. Les organisations des médias viennent de se réunir, mais déjà je peux vous dire que la décision c'est de dire que compte tenu du fait que la présence du CSC a été désavouée par plus de la majorité des conseillers, on fait une lettre pour désavouer l'attitude de la présidente et demander la levée immédiate comme nous de la mesure. Compte tenu du fait que c'est une mesure illégale, attentatoire à la liberté d'expression et de la presse, mais et compte tenu aussi de l'entêtement et de la non-collaboration, les organisations professionnelles et les promoteurs ont décidé simplement de faire comme la présidente du CSC, donc de continuer de reprendre les émissions, de ne pas continuer à respecter une mesure illégale. Et quand on le fait savoir et qu'on n'est pas entendu, et qu'on tente de nous rouler dans les farines, on tente de nous opposer, de nous diviser, et de nous faire dire ce qu'on n'a pas dit, finalement on finit, mais voilà, la décision, on va faire comme la présidente du CSC.
Abdoulaye Diallo du centre de presse Norbert Zongo, joint à Ouagadougou.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, au moins 36 combattants rebelles ont trouvé la mort à Sanaa, la capitale, lors de raids aériens de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Dans cette campagne militaire qui se poursuit contre les insurgés chiites, ayant pris le contrôle de larges portions du territoire yéménite, de nombreux civils et combattants ont également été tués ou blessés le long de la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen, indique l'agence de nouvelles Reuters. L'offensive lancée fin mars a déjà fait plusieurs milliers de morts et réduit l'accès à la nourriture, aux médicaments et carburants pour la population civile.
Par ailleurs, le gouvernement saoudien a annoncé aujourd'hui des sanctions contre deux dirigeants présumés du mouvement chiite libanais Hezbollah, accusant l'un d'eux d'ingérence dans les affaires du Yémen, selon l'AFP. Sachez que le Hezbollah est un allié de l'Iran qui soutient les rebelles chiites du Yémen, tandis que les Saoudiens appuient les sunnites et le président en exil Abdrabbu Mansour Hadi. Les deux impliqués sont un responsable militaire et le chef présumé d'une cellule terroriste du groupe chiite libanais.
Et des attentats suicides ont tué au moins 17 soldats irakiens dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak. Selon les autorités, ces attaques ont eu lieu hier soir, à proximité de la ville de Fallujah, contrôlée par le groupe État islamique. Elles interviennent quelques heures seulement après le lancement d'une offensive de l'armée irakienne pour la reconquête de Ramadi, la capitale de la province d'Al-Anbar et d'autres localités prises par les djihadistes. Aidés de miliciens chiites, et les soldats du gouvernement mènent des opérations essentiellement aux abords de Ramadi, tentant de couper la voie de ravitaillement des islamistes avant de lancer la grande bataille pour la reprise de Ramadi.
Il faut accentuer la pression et augmenter les sanctions contre la Corée du Nord, tandis que se poursuivent les efforts diplomatiques relatifs au programme nucléaire nord-coréen. Ainsi ont convenu des négociateurs de haut rang des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon lors d'une rencontre à Séoul. Pour le représentant spécial américain Song Kim, les intentions de Pyongyang quant au nucléaire sont évidentes. Nous devons être préoccupés, quel que soit le degré de leur développement, a-t-il ajouté.
La Russie se sert-elle de fours crématoires mobiles en Ukraine? En tout cas, c'est l'accusation lancée aujourd'hui par deux législateurs américains qui ont pris part à une mission d'information en Ukraine en mars dernier. Selon des extraits d'une interview accordée à Bloomberg News, le président de la commission des services militaires de la Chambre basse, Mac Thorberry, un républicain du Texas, c'est une façon pour les Russes de cacher la réalité sur leurs victimes. Quant à son collègue Seth Moulton, démocrate du Massachusetts, brûler les corps de ses propres soldats est un acte horrible et honteux. Et visiblement, Moscou a des problèmes internes à cause de ses victimes en Ukraine. Aucune réaction pour l'heure du gouvernement russe.
Les responsables arrêtés au cours de la vaste opération menée ce mercredi contre la FIFA ont corrompu le football mondial. C'est ce qu'a déclaré Loretta Lynch, la ministre américaine de la Justice, lors d'une conférence de presse à New York il y a quelques heures. Jacques Aristide.
Le gouvernement mondial du football, ébranlé donc ce mercredi par des scandales de corruption. 9 élus de la FIFA et 5 partenaires de l'instance ont été inculpés de corruption, rackets et blanchiment à New York, accusés d'avoir reçu ou distribué plus de 150 millions de dollars depuis 1991 pour les droits de diffusion de tournois internationaux. Pour la procureure générale des États-Unis, ils ont corrompu les affaires du football pour servir leurs intérêts et pour s'enrichir personnellement. Loretta Lynch a d'ajouter que même l'attribution de la Coupe du Monde 2010 à l'Afrique du Sud, le tout premier pays africain à avoir accueilli l'événement, était corrompue. Les inculpés risquent jusqu'à 20 ans de prison. 7 d'entre eux ont été arrêtés à Zurich, ville où siège la FIFA et où doit être organisée ce vendredi l'élection du président de la FIFA. L'actuel patron, Sepp Blatter, devrait être élu pour un 5e mandat.
Nous vous signalons que nous aurons une émission interactive sur cette décision affectant la FIFA à 19h GMT. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nicolas Pineau.
La Côte d'Ivoire a enregistré une production de coton record cette année, 450 000 tonnes au terme de la saison 2014-2015, soit une hausse de 11% par rapport à la saison précédente. La raison, des conditions météorologiques favorables et l'augmentation du nombre d'agriculteurs dans ce secteur. Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement à Abidjan, pour son cinquantenaire, l'ABAD et son président sortant auraient investi 14 000 milliards de francs CFA dans les infrastructures économiques du continent en 8 ans. Donald Kaberuka sur le départ, la Banque africaine de développement se cherche un nouveau président. 8 candidats sont en piste. Comment ça marche? Chaque pays membre dispose d'un gouverneur. En tout, 80 gouverneurs voteront, 54 représentant les pays africains et 26 les pays dits non régionaux, de l'Argentine aux États-Unis en passant par la Chine. Le Rwanda a réintégré la communauté économique des États d'Afrique centrale, 8 ans après avoir suspendu sa participation à l'instance régionale. Kigali a officialisé son retour lors de la 16e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui s'est tenue le 25 mai à N'Djamena. La CEAC a été créée en 1983 et réunit l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, le Tchad et donc le Rwanda. Enfin, la Banque mondiale mobilise 248 millions de dollars pour appuyer 2 millions de pasteurs dans le Sahel.
La Minute Éco avec Nicolas Pineau.
L'actualité sportive est dominée ce soir par ce coup de filet sans précédent à la FIFA. Bagassi Koura, bonsoir.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, l'instance mondiale du foot a été frappée tôt ce mercredi matin par un double séisme avec l'arrestation de 7 responsables soupçonnés de corruption et par la perquisition de son siège à Zurich dans une affaire distincte portant sur l'attribution des mondiaux 2018 et 2022. Vers 6h, Chérubin, 6h du matin, des policiers suisses en civil opérant à la demande donc des autorités américaines se sont présentés au luxueux hôtel 5 étoiles bord au lac du centre de Zurich où sont logés les principaux dirigeants de la FIFA avant le congrès prévu jeudi et l'élection de vendredi. Ils en sont repartis avec 3 après avoir interpellé 7 responsables de la FIFA soupçonnés d'avoir accepté des dessous de table d'un montant total de plusieurs dizaines de millions de dollars des années 90 à nos jours. Les suspects interpellés ont été placés en détention et font l'objet d'une demande d'extradition ici aux États-Unis.
Alors, que peut-on dire des réactions ce soir?
Eh bien, la Confédération brésilienne de football a apporté son soutien intégral à l'enquête sur la corruption au sein de la FIFA. Quant à la Russie, elle a dénoncé l'application illégale de la loi américaine après cette interpellation en Suisse de plusieurs personnes liées à la FIFA. Nous appelons avec insistance Washington à mettre fin à cette tentative d'exercer la justice bien loin de ses frontières selon ses normes juridiques et à suivre les procédures juridiques internationales généralement admises.
NBA, les playoffs se poursuivent, Bagassi.
Oui, les playoffs se poursuivent avec ce match de la conférence Est hier soir. Les Atlanta, les Hawks d'Atlanta, j'allais dire les Atlanta Hawks, qui sont donc éliminés avec 118 à 88 grâce à l'équipe, à LeBron James et les Cavaliers qui sont donc en finale. Peut-être qu'ils vont affronter les Golden State Warriors.
Golden State mène par 3-1, 3 victoires contre 1 pour Houston. Merci Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorsil et Morgane Guerriec en votre compagnie. Notre premier dossier ce soir concerne le Nigeria.
Le président élu Mahamadou Bouhari doit prêter serment vendredi à Abuja. Durant sa campagne, il avait promis le changement et de nombreux défis l'attendent dans le pays le plus peuplé du continent. Il y a en ce moment une pénurie de carburant chez le premier exportateur de pétrole. Sur les attentes du Nigérian moyen, Idriss Fall a joint Ibrahim Yakubu, un habitant de Kaduna dans le nord du pays.
Je crois qu'il y a beaucoup de défis que le nouveau président du Nigeria doit se confronter. Tout d'abord, vous savez qu'il y a des problèmes de chômage qui dérangent les gens ici au Nigeria. Il y a aussi des problèmes de carburant. Jusqu'à présent, depuis une semaine, il n'y a pas de lumière ici au nord du Nigeria. C'est presque partout au Nigeria. Là, c'est un problème qui dérange tout le monde pour le moment. Il y a aussi la disparition de Chipotiel. Jusqu'à présent, ce n'est pas là où ils sont. Il y a aussi des problèmes de sécurité. Et ça, c'est un grand problème qui cause des dégâts.
Quand vous parlez de sécurité, vous faites allusion au groupe Boko Haram.
Parlons même de Boko Haram. Ça, c'est un problème même. La seule chose que je peux dire, le problème que le nouveau président au Nigeria va se confronter, vous voyez, dès le début même, c'est la corruption. S'il va combattre vraiment la corruption, là, vraiment, c'est la première chose qu'il doit faire. Et puis, une autre chose qu'on dit, c'est mettre la fin au problème de Boko Haram. Ce problème de Boko Haram cause beaucoup de dégâts ici au Nigeria, pas même au nord, mais c'est partout ici au Nigeria. Ça détruit la paix. On ne peut pas dire qu'il y a la paix ici, comme maintenant, si quelqu'un va rentrer à la mosquée ou bien à l'église. Vous ne pouvez pas aller à tous les endroits que vous voudrez aller assez paisiblement, mon frère. Celle de Boko Haram, là, c'est une chose qu'on n'a jamais pensé qu'il va arriver au Nigeria, ce problème de Boko Haram. Je n'ai jamais dans ma vie pensé que je pourrais rentrer au marché central. Quelquefois, si je vais rentrer, je vais penser que donc, peut-être s'il y a un classement de bombes, qu'est-ce que je dois faire? Si je voudrais aller quelque part, parmi là, même à l'école, une autre chose que je peux dire, il faut qu'il fasse tout possible pour mettre la fin de problèmes de chômage. Parce que beaucoup de gens ici au Nigeria, ils ont des problèmes de chômage. Ils n'ont pas le travail à faire. Du matin au soir, vous allez voir les gens qui sont en train de rouler sous le goudron à la recherche de travail.
Et qu'en est-il de l'électricité?
Oui, là aussi, c'est un autre problème. Les gens, je te dis, on utilise le générateur du matin au soir. Mais maintenant même, depuis une semaine chez moi, il n'y a pas de l'électricité. On dort comme un villageois. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'ancien président, c'est-à-dire lui qui va factif, good luck là. Vraiment, ce que je peux dire, c'est comme il n'a pas travaillé pour ce côté. On est là quand même. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé au Ghana, Tchad et d'autres pays voisins. Ils n'ont pas de problème de l'électricité. Ils n'ont pas aussi de problème de carburant. Mais alors, nous aussi, comme toujours, on écoute souvent l'électricité partout, dans d'autres pays francophones. Mais ici, au Nigeria, c'est vraiment autre chose, mon frère.
C'était le témoignage de Ibrahim Yakubu, un habitant de Kaduna, dans le nord du pays.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une série de reportages sur le drame de l'immigration en Méditerranée. Les naufrages ont déjà fait des milliers de morts. Comment l'Union européenne peut-elle régler le problème? Faut-il un plan robuste contre les trafiquants de migrants? Et l'Union africaine doit-elle agir également? Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Burkina Faso, le principal mouvement des droits de l'homme ne prendra pas part à la journée d'hommage aux 34 martyrs de l'insurrection d'octobre, prévue le 30 mai prochain. Le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, entend ainsi protester contre le manque de volonté des autorités de la transition d'ouvrir des enquêtes sur ces assassinats. Ali Sanou en est le secrétaire général.
Pour le moment, nous n'avons aucune information sur l'ouverture d'enquêtes. Et lors des investigations pour l'élaboration du rapport, nous nous sommes rendus compte que dans les localités que nous avons visitées, les familles que nous avons rencontrées, apparemment, aucune procédure judiciaire n'a été ouverte.
Alors, et dans votre rapport, hein, vous mettez en cause le RSP, ce régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré.
Oui, évidemment, nous avons constaté pendant les journées insurrectionnelles que dans un premier temps, le 30 octobre, le RSP a ouvert le feu et a tué des personnes, d'abord au domicile de François Compaoré, petit frère de Blaise Compaoré, dont ce domicile, il faut le relever, gardé par les éléments du régiment de sécurité présidentielle.
Si ce dossier-là ne bouge pas, est-ce que ce n'est pas aussi parce que les principaux responsables de ce régiment-là, je veux dire le commandant Kéré, le général Gilbert Diendéré, et surtout le premier ministre Isaac Zida, qui était le numéro 2 de ce régiment-là, sont toujours en place?
Oui, je suis d'accord avec vous, parce que lorsque nous suivons nos autorités, nous nous rendons compte que leur souci, c'est de rendre hommage aux victimes de l'insurrection populaire. Alors que le plus grand hommage qui puisse leur être rendu du point de vue de notre mouvement, c'est de travailler à ce que les personnes qui les ont tuées et les personnes également qui ont ordonné qu'on tire dans les réels sur ces personnes soient arrêtées et jugées conformément aux lois en vigueur dans notre pays. Et la transition ne semble pas être un sujet de préoccupation. Comme nous l'avons dit, parce que nous constatons que certains responsables de la transition ont été également, de par le passé, responsables du régiment de sécurité présidentielle, notamment le premier ministre de la transition, qui, il faut le rappeler, au moment des faits, était le numéro 2 du régiment de sécurité présidentielle.
Ali Sanon, le secrétaire général du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples.
Depuis près d'un mois, le prix du maïs a flambé sur le marché togolais. Le bol de 2,5 kg est vendu à 600 francs CFA et même plus. Les associations de consommateurs dénoncent cette inflation et demandent à l'État d'approvisionner les marchés avec les excédents céréaliers de la campagne passée afin de faire chuter les prix. Les producteurs, eux, demandent un moratoire de 2 ou 3 semaines. Reportage à Lomé de notre correspondant.
Au lendemain de l'élection présidentielle, les prix de certains produits alimentaires ont connu une hausse au Togo. C'est aussi le cas du maïs, qui est l'aliment de base des Togolais. En cette période, le prix du bol de 2,5 kg de maïs varie entre 400 et 500 francs CFA. Mais depuis quelques semaines, des Togolais déboursent 600 voire 700 francs CFA pour acheter un bol de ces céréales. Pour la Ligue des consommateurs togolais, c'est une spéculation entretenue par les exportateurs de maïs. Emmanuel Sogadi, président de la LCT.
Cette augmentation du fait que la demande est plus forte par rapport aux pays de la sous-région, le Ghana, le Bénin, le Gabon, le Mali, le Niger, qui ont l'habitude d'acheter le maïs au Togo. Et si ça augmente, les grands commerçants et les grandes commerçantes profitent pour pouvoir s'enrichir. Et ce qui fait que les propres Togolais, ceux qui sont sur le territoire national, ont des effets pervers. Le ministre nous a dit que les jours à venir, ils vont verser le stock sur le marché. Ça veut dire que dans les jours à venir, le prix va se réguler automatiquement sur le marché.
Si les consommateurs sont dans l'expectative de la mise sur le marché du stock de sécurité de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, les producteurs, eux, demandent à l'ANSAT de reporter de quelques semaines l'approvisionnement des marchés. Erovi Kebi, président de la Chambre d'agriculture de la région des Plateaux.
Les consommateurs n'ont qu'à prendre de patience. Il nous faut encore 2 semaines, 3 semaines. Parce que si l'ANSAT fait sortir son stock aujourd'hui, c'est que les stocks que nous disposons encore sur nos bras, nous ne pouvons pas les écouler à ce prix quand même. Parce que si nous avons de l'argent, nous pouvons rembourser nos banques et nous pouvons relancer la production.
Le ministre de l'Agriculture se veut rassurant. Il indique que des dispositions sont prises pour satisfaire toutes les parties. Nous écoutons Urokura Agadazi.
Dans les jours à venir, le gouvernement togolais mettra à travers l'ANSAT tout le volume de stock que l'ANSAT a réalisé cette année. Donc il n'y a pas d'inquiétude aussi bien pour les paysans, pour les consommateurs que pour les commerçants. Parce que la projection des stocks prendra en compte les intérêts des paysans. Il faudrait maintenir cette approche de manière à ce que les paysans puissent relancer la production au cours de l'année prochaine. Dans la même veine, il faut nécessairement travailler pour que les consommateurs puissent avoir dans quelques jours du maïs sur l'ensemble du territoire sans perturber les activités des femmes commerçantes.
Soulignons que les besoins annuels du Togo en matière de maïs sont à plus d'un million de tonnes. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. Savez-vous qu'une personne sur neuf dans le monde ne mange pas à sa faim, soit 795 millions, selon le rapport de la FAO publié ce mercredi, conjointement avec le Programme alimentaire mondial, le PAM, et le Fonds de développement agricole? En un quart de siècle, le chiffre a cependant baissé d'environ 216 millions, sachant que la population a fortement augmenté, Morgane, depuis 1990.
Sur 72 des 129 pays suivis par la FAO ont atteint l'objectif du millénaire 2015, qui vise à réduire de moitié la sous-alimentation. Malgré des progrès, l'Afrique subsaharienne accuse encore la prévalence la plus élevée de malnutrition. Nathalie Barge a contacté Luca Russo, économiste à la FAO.
Le rapport sur l'Afrique est un peu mitigé, dans le sens il y a certains pays où on a eu des progrès remarquables, c'est des pays où on a mis en place des politiques de sécurité sociale et de développement importants. Je peux citer par exemple l'Éthiopie ou le Ghana. Mais en même temps, reste vrai que l'Afrique, c'est le continent avec les problèmes les plus marqués. Et ces problèmes sont marqués surtout dans une série de pays que nous, on appelle pays en crise prolongée, c'est-à-dire des pays où il y a une série de différents facteurs, voire conflits, voire questions de sécheresse, voire des questions de politique nationale, qui font de sorte qu'il n'y a pas beaucoup de progrès ou aucun progrès dans certains de ces pays. Je peux citer la Somalie, je peux citer le Sud-Soudan, je peux citer la République centrafricaine.
Qu'est-ce que la FAO recommande, notamment en matière agricole ?
La première chose, que l'investissement en agriculture, et surtout dans l'agriculture vivière, et on a une évidence sur ça, porte à des résultats de réduction de l'insécurité alimentaire ou de la pauvreté trois fois majeurs par rapport à des investissements un peu plus, disons, d'ordre général. L'autre chose absolument importante pour nous, c'est de mettre en place dans tous les pays à risque des filets de protection sociale qui peuvent être basés sur, par exemple, de transferts en espèces aux groupes plus vulnérables. Parce qu'à travers ces transferts, on peut assurer que les populations les plus vulnérables puissent aussi faire des investissements dans le secteur agricole et dans le secteur productif. Tous ces objectifs-là, pour être atteints, ont besoin d'une volonté politique que, malheureusement, n'est pas toujours présente, ni au niveau global, ni au niveau des pays. Les pays qui sont en train d'atteindre les objectifs du millénaire, c'est tous des pays où il y a une très forte volonté politique pour investir sur la sécurité alimentaire.
Luca Russo est un économiste à la FAO. Il était joint à Rome par Nathalie Barge.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, country music, comédie et musique internationale. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire. Que pensez-vous du mariage précoce? Après le mariage forcé, nous enchaînons bien sûr avec le mariage précoce. Aussi, les amis, 28 ans après sa mort, on continue à parler de Thomas Sankara. Que retenez-vous de l'homme? Vos points de vue cette semaine dans RM Show. Envoyez-nous vos réactions par SMS au plus 225-5892-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Cette édition touche à sa fin. À la mise en onde ce soir, Georges Léonard Sagnot, Marc Charleston à la console technique. Présentation, Morgane Diriec et Chérubin Dorsil.
Et nous vous rappelons qu'à 19h GMT, nous aurons une émission interactive, un programme spécial sur les arrestations opérées aujourd'hui à la FIFA. Sept dirigeants de l'Organisation mondiale du football sous les verrous pour corruption. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet. On est ensemble 24 sur 24. C'est voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.